Le christianisme contrefait de Satan, par Roderick C. Meredith. Le message stupéfiant de cette brochure vous concernera bientôt, personnellement, et affectera votre vie éternelle. Il est d'une importance capitale. Ce que vous allez découvrir a été occulté au cours des siècles, mais désormais, vous ne serez plus dans l'ignorance. Édition 1.1, mars 2012. Copyright 2005, Living Church of God, tout droit réservé. Satan's Counterfeit Christianity, traduit de l'anglais, sous la surveillance de Dibar appartient. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Cette brochure contient des informations stupéfiantes pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ces informations affecteront profondément l'avenir de notre civilisation. En outre, le contenu de cette brochure est étayé par de nombreux documents d'historiens reconnus et même de théologiens. Ce que vous découvrirez n'est basé ni sur une quelconque théorie ni sur un concept tombé du ciel. Les effets du développement rapide de la fausse religion aujourd'hui vous toucheront personnellement dans un proche avenir. Beaucoup plus directement que vous ne puissiez l'imaginer. En effet, cette révélation explosive ne s'adresse pas uniquement aux gens religieux, mais à tous les individus. Nous en serons bientôt tous affectés. Vous êtes-vous déjà posé la question? Comment en suis-je arrivé à croire ce que je crois maintenant en matière de religion, de morale et du véritable but de l'existence humaine? Si mes amis et moi, nous avons tout simplement adopté aveuglément les idées admises par la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas également ce qu'ont fait la plupart des gens? Serait-il possible que nous ayons accepté sans réfléchir les fausses idées religieuses auxquelles nous croyons et qui ont, en fait, grandement influencé tous les modèles de société que nous connaissons? Les systèmes législatifs, les systèmes éducatifs et les systèmes religieux que nous avons inventés et que nous regardons comme allant de soi? Vous êtes-vous jamais posé ces questions fondamentales? Si un Dieu réel existe et si la Bible contient sa révélation inspirée, vous devriez sérieusement tenir compte de ce que la Bible dit à propos de ces interrogations. La Bible recommande, je cite, « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. Maintes et maintes fois, la Bible répète que la majorité des êtres humains ont été séduits. En décrivant les temps de la fin, l'apôtre Jean mentionne au sujet du diable. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse 12, au verset 9. Plus de 2 milliards de chrétiens parmi les principales dénominations font partie de toute la terre, mentionnée par l'apôtre Jean, et beaucoup sont séduits. Ces individus et leurs prédicateurs n'ont pas l'intention de nuire, car une personne séduite ne sait pas qu'elle est séduite. Il nous importe de comprendre cette nuance. Je ne suis pas méprisant en écrivant cela, mais le Dieu des cieux m'ordonne de prêcher la vérité. Comment pourrais-je vous être utile si je me contentais de vous annoncer des platitudes et prétendre que tout va bien alors que tout ne va pas bien? Au contraire, tout va mal. En effet, nous approchons à grands pas de la fin des 6000 ans d'histoire humaine sous l'influence de Satan le diable que Jésus-Christ a qualifié de prince du monde. Jean 14 au verset 30. Il ne suffit pas d'être sincère. Je suis fort conscient que vous, comme les milliers de nos autres lecteurs, êtes très sincères dans votre désir d'être chrétien. Vous pensez réellement que la religion dans laquelle vous avez grandi et que vous pratiquez est celle que Jésus-Christ et les apôtres ont enseignée. Beaucoup de ministres du culte et de prêtres croient avec la même sincérité aux mêmes choses que vous. Des milliards d'êtres humains ont vécu et sont morts jadis, sans avoir jamais eu l'opportunité de comprendre ou de pratiquer une forme quelconque de ce qu'on appelle le christianisme. La vaste majorité des gens n'a jamais à aucun moment cru au christianisme. En outre, la plupart d'entre eux étaient sincères, comme vous l'êtes probablement. En conséquence, le fond du sujet n'a rien à voir avec la sincérité ou le fait de suivre la multitude. La véritable question consiste à trouver l'unique vérité concernant le but de l'existence humaine et la bonne voie qui permet d'accéder à ce magnifique dessein. La sincérité en matière de religion est-elle suffisante? Non. Toutes les religions ne se valent pas. Si vous avez prouvé que le Dieu suprême est le véritable Dieu et que la Bible est sa parole révélée et inspirée, vous devez admettre qu'il n'y a qu'une seule voie qui conduit à la vie éternelle. Cette voie passe obligatoirement par le véritable Jésus-Christ de la Bible, comme l'apôtre Pierre l'a déclaré. Je cite, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4 au verset 10 à 12. Très peu de prétendus chrétiens soupçonnent l'énormité de la séduction orchestrée par Satan le diable. Ils répugnent à imaginer que Satan ait non seulement réussi à séduire le monde païen, mais encore qu'il ait réussi à inventer un christianisme de contrefaçon pour duper des millions d'individus qui pensent sincèrement suivre le Christ de la Bible. En son temps, l'apôtre Paul avait déjà mis en garde les Corinthiens en déclarant, je cite, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » 2 Corinthiens 11 au verset 3 et 4. En réalité, un autre Jésus, un Jésus-Christ totalement différent, a été tronqué à l'humanité qui ne se doutait de rien. Comme vous savez, un faux billet de 100 € ressemble à s'y méprendre à un billet authentique. Les gens acceptent les contrefaçons parce qu'ils se fient souvent aux apparentes similitudes. Il en est de même avec Satan, le maître séducteur. Assurez-vous de ne pas avoir été séduit en supposant que vous suivez le Christ de la Bible et ce qu'il a réellement enseigné. La Bible indique qu'il n'y aura que les véritables chrétiens qui seront protégés au cours de l'Holocauste à venir, la grande détresse décrite par Jésus-Christ. Dans très peu de temps, dans quelques années à peine, le Dieu de toute la création interviendra directement avec grande puissance. Les récents ouragans qui ont ravagé la Floride, la Nouvelle-Orléans et les côtes des États-Unis ne sont qu'un petit prélude à comparer à ce que Dieu commencera à faire dans les derniers jours. Jésus-Christ a prédit, je cite, « Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Luc 21 verset 11 et Luc 21 verset 25 et 26. Le Dieu suprême attirera l'attention des hommes. Il aidera ceux qui veulent comprendre qu'il faut sortir de cette Babylone moderne, Apocalypse 18 au verset 4, et s'extraire de la société de Satan. L'apôtre Paul fut également inspiré à nous dire que Satan le diable est littéralement le dieu de cette société mondaine. Il a écrit, je cite, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, au verset 3 et 4. La donnée fondamentale de cette brochure est que notre Créateur a permis à un diable, un être tout à fait réel, de séduire la plupart des êtres humains depuis presque 6000 ans. En fait, Satan a établi une religion de contrefaçon pour tromper le monde entier, mais notre Créateur interviendra bientôt et Jésus-Christ reviendra sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19 au verset 16. Lorsqu'il sera de retour, le Christ précipitera Satan dans l'abîme afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Apocalypse 20 au verset 3. L'une des ruses élémentaires au moyen de laquelle Satan séduit la plupart des gens consiste à leur faire croire qu'il n'existe pas. Ainsi, des gens blaguent à son sujet en ayant l'impression qu'il n'est pas réel. Mais comme nous l'avons vu, Jésus-Christ appelle le diable le prince de ce monde. Comment Satan s'y prend-il? Quelles sont ses méthodes de séduction? Plus grave encore, comment a-t-il réussi à séduire toute la terre? Lorsque Jésus-Christ cita Daniel le prophète, Marc 13 au verset 14, il reconnaissait par là que ses écrits faisaient partie des saintes écritures. Le livre de Daniel fait référence à des êtres spirituels, tant des anges que des démons, à de nombreuses reprises. Après que Daniel eut jeûné pour comprendre, Dieu envoya un ange pour l'encourager. Daniel 10 au verset 10 à 12. L'ange lui expliqua pourquoi un temps assez long était nécessaire avant que sa prière fût exaucée. Je cite, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Versets 13 et 14. Plus tard, ce même ange fournit d'autres détails concernant le monde spirituel invisible. Je cite, « Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. » Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Versets 20 et 21. Il est clair, d'après ces passages, qu'il est question ici de guerre spirituelle. Il s'agit de la description d'une lutte qui avait lieu en arrière-plan des affaires mondiales dans le monde des esprits. En effet, Satan le diable est décrit comme le dieu de ce siècle qui a aveuglé les incrédules. 2 Corinthiens 4 au verset 4. Satan est aussi appelé le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2 au verset 2. L'ange qui parlait à Daniel décrivait une bataille entre des êtres spirituels au cours de laquelle il fut même nécessaire de faire appel à l'assistance du grand archange Michaël. Voir Daniel 12 au verset 1. Ce monde, cet âge, c'est-à-dire les quelques 6000 ans écoulés depuis Adam jusqu'à maintenant, est une époque où la société est dominée par Satan le diable et les millions d'anges déchus, des démons qui le suivirent dans sa rébellion contre le Dieu créateur. Satan n'est pas tout simplement un terme générique caractérisant le mal. Satan n'est pas une force aveugle. Satan le diable est un être spirituel puissant, créé par Dieu en tant que chérubin qui se rebella contre son créateur. Son nom d'origine, Lucifer, signifie celui qui apporte la lumière. Mais depuis sa rébellion, son nom fut changé en Satan, ce qui signifie adversaire. Notez Ésaïe 14 au verset 12 à 15. Je cite. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Dans ce passage, on peut lire quelle fut la plus grande machination ourdie par Lucifer pour détrôner Dieu. Sa grande puissance et sa vanité l'ont poussé à défier son Créateur. Dans Ézéchiel 28 au verset 1 à 16, Dieu décrit d'abord le prince humain de Tyr. Il s'agissait manifestement d'un homme qui avait un grand pouvoir et qui régnait d'une manière absolue sur cette New York de l'époque antique. Ensuite, Ézéchiel décrit la réelle puissance agissante sur le trône, le roi de cette cité-état païenne. Notez-le, je cite, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi, par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoigne, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes était à ton service, préparé pour le jour où tu fus créé. » Versets 12 et 13. Ici, nous trouvons un être qui existait déjà des milliers d'années avant Tyr, dans le jardin d'Éden. Cependant, cet être était une créature, verset 15, et non pas un membre de la famille divine. Satan possède un royaume. Après des marchandages et des manœuvres politiques pour gagner des partisans, Satan fut précipité de la montagne, autrement dit du royaume de Dieu, comme l'indique Apocalypse 12 au verset 3 et 4. Satan réussit à entraîner le tiers des anges dans sa rébellion contre Dieu. Ces anges déchus sont appelés des démons. Actuellement, Satan domine sur des millions d'anges déchus qui sont ses partisans. Dans ce sens, il possède un royaume sur lequel il gouverne dans le monde des esprits. L'évangile selon Matthieu contient le récit de la tentation de Jésus par Satan, qui est un être extrêmement perspicace. Je cite, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Matthieu 4 au verset 1. Ce récit tiré de l'évangile est un bon exemple qui nous montre que Satan n'hésite pas à citer les Écritures. En fait, Satan s'est même payé l'audace de citer les Écritures à l'auteur des Écritures. Jésus-Christ. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Matthieu 4, versets 5 et 6. Ensuite, Satan offrit à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Versets 8 et 9. Bien entendu, Jésus connaissait les principes spirituels contenus dans ces citations, et il savait comment répondre en utilisant correctement les Écritures. Je cite, « Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Verset 10. Jésus avait choisi d'obéir à Dieu et de prendre possession de son royaume, au moment voulu par Dieu et à la façon divine. Plus tard, lorsque Jésus fut accusé d'invoquer Belzébul pour chasser les démons, il dit, je cite, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc celui de Satan, royaume, subsistera-t-il ? » Matthieu 12 au verset 25 et 26. Satan possède un royaume. Il est le Dieu invisible de ce monde. 2 Corinthiens 4 au verset 4. Il est le premier séducteur des hommes et des nations. Je cite, « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Apocalypse 12 au verset 9. Satan est l'être spirituel qui influencera très fortement et qui possédera même un dictateur politique charismatique à venir, lequel séduira une grande superpuissance mondiale qui ressuscitera une Europe unifiée, c'est-à-dire la Babylone des temps de la fin. Satan sera le Dieu qui animera et renforcera le faux système religieux derrière la puissance économique et militaire de cette dictature. Ne me croyez pas, sans vérifier vous-même ce qu'en dit la Bible. La parole divine prédit que ce futur système oppressif sera littéralement animé par des démons. Je cite. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18 au verset 1 à 4. Satan incitera ses futurs dirigeants du monde à combattre le Christ à son retour comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais en fin de compte, le Christ destituera Satan et mettra un terme à sa perversité. Satan, le faussaire. Jésus condamna les dirigeants religieux de son époque à cause de leur hypocrisie. Ces ecclésiastiques prétendaient être pieux, alors qu'ils refusaient de mettre en pratique le caractère spirituel de la loi divine. Jésus leur attribua le même caractère que Satan, partant du principe que Satan était leur père. Il leur appliqua le dicton « tel père, tel fils ». Le diable est menteur et meurtrier. Quoi de surprenant si les enfants du diable sont semblables, s'ils prêchent un évangile perverti, mensonger et falsifié? Il est important de saisir que Satan est littéralement le père du mensonge. Il ment en permanence et de façon astucieuse. Il trompe l'humanité et ceux qui le servent agissent de la même façon. Mentir est devenu chose tellement courante à ceux qui sont influencés par Satan qu'ils sont souvent plus à l'aise dans le mensonge que dans la vérité. Dans sa conspiration pour détrôner Dieu et contrecarrer son grand plan pour l'humanité, Satan a ses propres ministres. L'apôtre Paul mit en garde les chrétiens à ce sujet. Je cite « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11 au verset 13 à 15. Les ministres de Satan ressemblent et parlent comme des ministres du Christ, d'après ce qu'en pensent les gens séduits. Mais en réalité, ils prêchent un autre Jésus et proclament un autre évangile. Il nous importe individuellement, d'étudier attentivement la Bible et de prouver ce que Jésus et les premiers apôtres ont enseigné et pratiqué. Les deux Babylones. La Bible ne décrit pas qu'une seule Babylone, mais deux Babylones spécifiques. Peu de temps après le grand déluge, une première Babylone fut fondée, l'ancienne cité-État édifiée par un homme nommé Nimrod. Genèse 10 au verset 8 à 10. La seconde Babylone est un système moderne d'église-État décrit dans Apocalypse 17 et 18. Ses dirigeants combattront littéralement le Christ à son second avènement. Apocalypse 17 au verset 12 à 14. Des centaines de millions d'individus faisant partie de cette Babylone des temps de la fin seront tellement séduits qu'ils auront l'audace de lutter littéralement contre le Fils de Dieu et contre l'armée des cieux. Pour comprendre comment a débuté ce système appelé Babylone, retournons au premier jour de l'histoire humaine. Dans Genèse 10, peu de temps après le déluge, l'homme avait recommencé à se reproduire. Les animaux sauvages s'étaient multipliés également, et les gens éprouvèrent la nécessité de se protéger. C'est alors que naquit un fils de Couche. La Bible nous dit « Couche engendra aussi Nimrod ». C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Genèse 10 au verset 8 à 10. Ainsi, ce vaillant chasseur, dont on dit qu'il fut également un bâtisseur, commença à rassembler les gens dans des villes pour les protéger, mais également pour les maintenir sous son contrôle. Au départ, le royaume de Nimrod commença à Babel, Babylone. À partir de là, il établit d'autres villes et rassembla les hommes qui commencèrent à se sentir indépendants par rapport à Dieu. Acquérant un sentiment de pouvoir se passer de la protection divine. En fin de compte, les hommes qui n'avaient qu'une seule langue et les mêmes mots, Genèse 11 au verset 1, se mirent à construire un énorme gratte-ciel, une tour qui fut nommée la tour de Babel, verset 4 au verset 9. Dieu savait que sous ce système babylonien, l'humanité s'éloignait rapidement de lui et qu'elle était en mesure d'inventer des armes capables de s'autodétruire. Il dit, je cite, « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne serait irréalisable pour eux. » Genèse 11 au verset 6, version la Bible de Jérusalem. La puissance créatrice de l'esprit humain était telle que Dieu savait que les hommes aurait inventé des armes terribles capables de détruire toute la terre et que son plan de 6000 ans alloué à l'humanité pour écrire la leçon des souffrances humaines serait prématurément écourté. Ainsi, Dieu intervint pour confondre leur langage et pour les disperser sur la surface terrestre. L'histoire ainsi que certains récits et légendes anciennes concordants datant du début de presque toutes les nations, indique que les philosophies ainsi que les religions, s'étant maintenues jusqu'à nos jours, eurent un commencement commun à partir de Nimrod et de sa méchante femme Sémiramis. En effet, après la mort de Nimrod, sa femme Sémiramis prétendit qu'il était désormais le dieu soleil, comme l'écrivit l'auteur Alexandre Hislop. Je cite. Les mystères chaldéens peuvent être assignés à l'époque de Sémiramis, qui vivait seulement quelques siècles après le déluge, et qui est célèbre pour leur avoir imprimé le caractère de son esprit licencieux et corrompu. Cette belle mais misérable reine de Babylone n'était pas seulement en personne un modèle de convoitise effrénée et de dérèglement, mais encore, dans les mystères qu'elle avait le plus contribué à former, elle était adorée comme Réa, la grand-mère des dieux, avec des rites tellement odieux qu'elle a été identifiée à Vénus, la mère de toutes les impuretés, et qu'elle a élevé la cité même où elle régnait à une honteuse supériorité parmi les nations. C'est à ce point qu'elle a été le grand siège de l'idolâtrie et de la prostitution sanctionnée. C'est ainsi que cette reine de Chaldée était le prototype exact et remarquable de la femme de l'Apocalypse, ayant une coupe d'or à la main et sur le front le nom Mystère la grande Babylone, mère des impudicités et des abominations de la terre. L'emblème apocalyptique de la femme impudique avec la coupe d'or à la main était même compris dans les symboles de l'idolâtrie dérivée de l'ancienne Babylone, tels qu'ils s'étaient représentés en Grèce. C'est ainsi, en effet, qu'on représentait Vénus à l'origine. Les deux Babylones, pages 7 et 8, librairie Fischbacher, Paris 1976, traduit par le pasteur J.E. Cerisier. La dispersion de la religion contrefaite. Ce système babylonien d'adoration idolâtre se répandit sur toute la terre, en même temps que la dispersion des habitants de la cité. Genèse 11 au verset 9. En partant de Babylone, ces hommes emportèrent avec eux leur culte de la mère et de l'enfant, ainsi que les divers symboles des mystères. Hérodote, grand voyageur et historien de l'Antiquité, constata que la religion à mystère et ses rites étaient présents dans de nombreux pays. Il rapporta comment Babylone fut à l'origine de tous les systèmes idolâtres florissants. Dans son remarquable ouvrage « Ninive and its Remains », Layard écrit que nous avons des témoignages de l'histoire sacrée et profane que l'idolâtrie a pris naissance dans la région de Babylone. Alexandre Hislop cite ces historiens et bien d'autres afin de prouver ce point dans sa remarquable thèse mentionnée ci-dessus. Plus tard, l'Empire romain assimila dans son système les dieux et les religions des nations qu'il gouvernait. Puisque Babylone était à l'origine de ce paganisme, il est aisé de comprendre pourquoi la religion romaine primitive consistait en une forme de culte babylonien, qui s'était développé sous différents aspects et différentes appellations selon les régions où il s'était propagé. Dans son livre fort documenté « Pagan and Christian Creeds », Edward Carpenter écrit, je cite, « La similitude des anciennes légendes et des croyances païennes avec les traditions chrétiennes était si grande qu'elles attirèrent l'attention et la colère déclarée des premiers chrétiens. Ne sachant pas comment l'expliquer, ils revinrent à la théorie selon laquelle le diable aurait, des siècles plus tôt, poussé les païens à adopter certaines croyances et certaines pratiques. » Page 25. Carpenter cite également Tertullien, l'un des premiers pères de l'Église ayant vécu entre 160 et 220 après Jésus-Christ, disant que, je cite, « le diable, par les mystères de ses idoles, imite même la plus grande partie des mystères divins. » Ibid. Il note également, je cite, « Cortés, lui aussi, déplorait que le diable avait probablement appris aux Mexicains la même chose que Dieu avait enseigné à la chrétienté. » Ibid. Le célèbre explorateur espagnol constata que les païens, habitant la ville qui devint Mexico, pratiquaient déjà les mêmes rites païens et qu'ils avaient beaucoup de croyances païennes similaires à ceux de l'Église catholique. Puisque les pratiques des églises actuelles ne sont pas identiques à celles de la véritable Église mentionnée dans le Nouveau Testament, il est important de s'interroger pour savoir s'il y a eu un mélange ambigu de fausses pratiques païennes avec les véritables enseignements du Christ, des apôtres et de la Bible. Beaucoup d'historiens comme Édouard Gibbon ont noté le changement opéré à cause de l'arrivée d'une grande foule de païens dans l'Église primitive et le mélange de leurs coutumes et des croyances étrangères avec celles de l'Église. Voir Decline and Fall of the Roman Empire, volume 1, chapitre 15. Remarquez comment les églises actuelles ont jailli des mêmes racines que le paganisme. Satan a créé tout un système de christianisme de contrefaçon. Il a habilement guidé des dirigeants religieux, menteurs, à introduire des idées, des pratiques et des concepts totalement païens dans le christianisme. Puisque le terme christianisme est étiqueté sur l'emballage, la plupart des individus supposent que la religion de Jésus est offerte à l'intérieur. Peu de gens ont conscience que ces concepts totalement erronés sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur son message, sur le but de la vie éternelle et sur la voie qui mène à la vie éternelle ont été enveloppés dans un emballage estampillé christianisme. Mais le leur est un christianisme de contrefaçon qui a coupé la plupart des gens du véritable Dieu, provoquant une énorme confusion de la souffrance et des deuils. Notez ces extraits tirés de Pagan and Christian Creeds. Je cite, « L'Église chrétienne s'est bien gardée de débattre du paganisme, sa position consistant à affirmer que l'Église est la détentrice de la révélation unique et divine. Étant parvenue à persuader l'humanité de cela, peu de gens de nos jours se rendent compte qu'elle est issue des mêmes racines que le paganisme et qu'elle partage la plupart de ses doctrines et de ses rituels avec ce dernier. » Carpenter, pages 11 et 12, sauf mention contraire, c'est nous qui traduisons tout au long de cette brochure. Autre citation. L'idée communément admise est que les dieux païens ont été éliminés lorsque le Christ est arrivé. Cependant, tous ceux qui y ont étudié savent fort bien que les faits démontrent le contraire. À l'époque de l'apparition de Jésus et des siècles avant lui, il y avait des temples consacrés à Apollon ou à Dionysos chez les Grecs, à Hercule chez les Romains, à Mithra chez les Perses, à Baal ou à Astarté chez les Babyloniens, ainsi que d'autres temples à d'autres dieux. Quelque chose d'intéressant mérite d'être signalé. Malgré les grandes distances, les différentes races, les divers cultes et les détails cérémoniaux, les croyances et les cérémonies se ressemblaient nettement, quand elles n'étaient pas en tout point identiques. Ibid, page 19 à 21. Je cite, « Ces croyances et ces rites païens, longtemps antérieurs à la venue du Christ, étaient non seulement très ressemblants entre eux, mais encore ils étaient similaires au christianisme, une réalité qui n'est pas un fait accidentel. Prenons-en pour exemple les 11 principales divinités vénérées dans 7 pays différents dont tout le monde ou presque croyaient que leur naissance avait eu lieu à Noël ou aux alentours d'une mère vierge, dans une grotte secrète, et qu'elle avait donné leur vie pour leur genre humain. On les appelait porteurs de lumière, guérisseurs, médiateurs et sauveurs. On pensait qu'elles avaient été vaincues par les puissances des ténèbres, qu'elles étaient descendues aux enfers ou dans les profondeurs de la terre pour ensuite ressusciter et devenir les premières à accéder à un monde céleste. La vie de Krishna, un dieu indien, présente des similitudes étonnantes avec celle du Christ. Ibid, pages 21 à 23. Carpenter poursuit, je cite, « Bien que l'idée de Dieu, donnant son Fils en sacrifice pour le salut du monde, soit grande et remarquable, elle existe cependant dans toutes les religions antiques. Elle remonte à une époque très éloignée et elle est incarnée à travers leurs rituels. » Ibid, page 133. Ces traditions originales ressemblaient tellement à la vérité qu'elles pouvaient faussement faire penser qu'une certaine force dirigeante les avait inspirées. Un christianisme de contrefaçon avait été créé par le Dieu invisible de cette époque que Jésus avait qualifié de père du mensonge. Jean 8 au verset 44. Da Vinci Code. Il est manifeste qu'avec de telles similitudes au sein du christianisme actuel, comme par exemple celles qui concernent les 11 divinités citées plus haut, dans 7 pays différents, on devrait être curieux d'essayer de comprendre ce sujet avec un esprit ouvert pour constater si la fusion du paganisme et du christianisme existe aujourd'hui. Le Da Vinci Code de Dan Brown est resté durant de nombreux mois en tête de liste ou presque des plus grosses ventes de livres. Des millions de lecteurs se sont passionnés pour cette nouvelle fascinante. Qu'y a-t-il de si intéressant d'en parler ici? Quoi que ce soit un roman et qu'il soit une fiction comportant de nombreuses erreurs, ce livre peut inciter le lecteur a réalisé qu'il y a beaucoup plus de choses cachées sous le vernis visible des idées et des pratiques religieuses, qu'il n'y paraît en surface. Trois personnages principaux évoluent dans Da Vinci Code. Il s'agit de Sophie Neveu, une talentueuse cryptographe française, de Robert Langdon, un spécialiste en symbolique religieuse de Harvard, et de Leigh Teabing, un historien de la famille royale britannique. Nous reproduisons ici leur conversation au sujet des origines de la religion que le monde qualifie de christianisme. Je cite « Les historiens s'émerveillent encore de l'exploit qu'il, l'empereur Constantin, a accompli en forçant tout un peuple païen à se convertir. Par une astucieuse fusion des dates, des rituels et des symboles païens dans la tradition chrétienne en formation, il a réussi à créer une religion hybride assimilable par tous ses sujets. » Une véritable métamorphose, ajouta Langdon. La présence de vestiges païens dans la symbolique chrétienne est absolument indéniable. Le disque solaire du dieu égyptien est devenu l'auréole des saints. Le pictogramme d'Isis allaitant son nouveau-né Horus a servi de base aux images de la Vierge et de l'enfant Jésus. Une majorité des éléments du rituel catholique, comme la myrtre, l'autel, la doxologie, formule de louange à Dieu, et l'Eucharistie, le fait de manger le corps de Dieu, tout cela vient en droite ligne des religions païennes de l'Antiquité. Si vous lancez un expert en symboles sur ce terrain, siffla Teabing, vous en aurez pour le restant de la nuit. Mais il est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de purement chrétien dans la nouvelle religion proclamée par Constantin. Le dieu Mitra, dieu solaire de l'ancien Iran, était depuis longtemps appelé fils de Dieu et lumière du monde, en célébrait sa naissance le 25 décembre, qui était aussi la fête d'anniversaire d'Osiris, d'Adonis et de Dionysos. Il a été enterré dans une caverne rocheuse et il est ressuscité 3 jours plus tard. Le nouveau-né Krishna a reçu en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Même le jour saint hebdomadaire a été calqué sur celui des païens. Comment cela? À l'origine, expliqua Langdon, les chrétiens honoraient le sabbat juif, le samedi. C'est Constantin qui l'a déplacé pour le faire coïncider avec la célébration du dieu Mitra. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens assistent au service dominical, sans savoir qu'ils célèbrent la fête du dieu soleil. Le mot anglais Sunday, dimanche, signifie jour du soleil. Da Vinci Code, page 290-291, édition J.C. Lattès, Paris, traduit par Daniel Roche. La vérité historique. Mais tout cela n'est que fiction, diriez-vous. Où cet auteur insensé est-il allé puiser ses idées étranges? Je suis convaincu que ma religion est entièrement basée sur la Bible. En êtes-vous bien certain? La Bible nous ordonne, je cite, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » 1 Thessaloniciens 5, au verset 21. En réalité, cette partie du livre de Dan Brown est fondée sur des faits solides et elle constitue une vérité qu'il est possible de prouver. L'histoire nous enseigne que le christianisme de Jésus et des apôtres fut dramatiquement modifié un ou deux siècles après la mort du Christ, comme l'historien Will Durant l'a écrit. Je cite. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. L'esprit grec qui se mourait reprit une vie nouvelle dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque qui avait régné sur la philosophie durant des siècles devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Les mystères grecs vinrent se fixer dans l'impressionnant mystère de la messe. D'autres cultures païennes ont contribué aux résultats syncrétistes. D'Égypte vinrent les idées de trinité divine, d'immortalité personnelle pour la récompense et pour le châtiment. D'Égypte aussi, l'adoration de la mère et de l'enfant, ainsi que la théosophie mystique qui fit le néoplatonisme et le gnosticisme et qui obscurcit la croyance chrétienne. C'est encore là que le monarchisme chrétien trouvera ses exemples et sa source. De Phrygie vint le culte de la grande mère, de Syrie le drame de la résurrection d'Adonis, de Thrace peut-être le culte de Dionysos, Dieu mourant et sauvant. Le rituel mitriarque ressemblait de si près au sacrifice eucharistique de la messe que des pères chrétiens accusèrent le démon d'avoir inventé ces analogies pour égarer les esprits faibles. Le christianisme a été la dernière grande création de l'ancien monde païen. L'Eucharistie était une conception depuis longtemps sanctifiée par la durée. L'esprit païen n'avait pas besoin d'entraînement pour la recevoir. En l'incarnant dans le mystère de la messe, le christianisme devenait la dernière et la plus grande des religions de mystère. L'histoire de la civilisation, volume 9, pages 240 et 247, Durand, édition Rencontre, Lausanne, 1963. Paul Johnson fut parmi ceux qui reconnaissaient ouvertement que le sabbat biblique du septième jour était observé par le Christ et les apôtres. Je cite, « Beaucoup de chrétiens ne virent pas clairement la différence entre ce culte solaire et leur propre culte. Ils l'identifièrent au Christ dirigeant son char à travers le siècle. Ils tenaient leur service le dimanche, s'agenouillaient en direction de l'Est et célébraient leur fête de la Nativité le 25 décembre, le jour anniversaire du soleil au solstice d'hiver. Au cours de la Renaissance païenne, survenue plus tard sous l'empereur Julien, beaucoup de chrétiens jugèrent plus simple d'apostasier à cause de cette confusion. L'évêque de Troyes confia à Julien qu'il avait toujours secrètement prié le soleil. Constantin n'abandonna jamais sa dévotion au soleil et maintint l'effigie du soleil sur sa monnaie. Il fit du dimanche un jour de repos. A History of Christianity, Johnson, 1976, pages 67 à 69. Qu'arriva-t-il après Constantin? L'auteur Jess Lehman Ullerburt nous l'explique. Je cite. Les coutumes et les cérémonies issues du paganisme s'introduisirent progressivement dans le culte. D'antiques fêtes païennes devinrent les fêtes de l'Église en changeant de nom et de destination. Aux alentours de 405 après Jésus-Christ, des représentations de saints et de martyrs commencèrent à faire leur apparition dans les églises, tout d'abord en tant que mémoriaux, puis comme objet d'adoration et de vénération. L'adoration de la Vierge Marie se substitua au culte de Vénus et de Diane. Le repas du Seigneur se transforma en sacrifice. Au lieu d'être une commémoration, et les anciens qui étaient des prédicateurs se muèrent en prêtres. Lorsque le christianisme devint religion d'empire, l'Église et l'État ne faisaient qu'un. De cette union, contre nature naquit deux mauvaises choses. L'une dans les provinces orientales et l'autre dans les provinces occidentales. À l'Est, l'État contrôla l'Église jusqu'à ce qu'il eût perdu toute énergie et toute vigueur. À l'ouest, à Rome, comme nous allons voir, l'Église s'appropria progressivement la puissance de l'État. Mais cela n'était pas du christianisme. C'était plutôt une hiérarchie plus ou moins corrompue qui contrôlait les nations d'Europe en ayant fait de l'Église une machine politique. The Story of the Christian Church, pages 79 et 80. Où tout cela nous conduisit-il? Nous venons de lire que la prétendue Église chrétienne du Moyen Âge était devenue une machine politique. Elle était remplie de doctrines, de pratiques et de concepts païens. Les dirigeants de la réforme protestante ont-ils réellement rétabli une Église qui enseignait une remise sur les rails de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, Jude 3, un retour au véritable christianisme de Jésus et des premiers apôtres? Quoique sincères dans leur ensemble, les réformateurs protestants furent affectés par une attitude anti-loi et anti-obéissance dont ils étaient nourris dans leur rébellion contre leur maire de Rome. Néanmoins, tout comme Rome, ils n'avaient pas quitté le système païen de fausses doctrines, de faux jours saints et de faux concepts dont il est question dans Apocalypse 17 au verset 4 et 5. Je cite. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Avec cette forme de christianisme, devenue religion d'État, des foules d'anciens païens se convertirent. Beaucoup d'entre eux agirent ainsi, pour éviter des ennuis, mais en privé, ils maintenaient leurs anciennes croyances. D'autres vinrent à cette nouvelle foi syncrétiste, sans avoir été enseignés et sans avoir reçu la moindre éducation de base. Babylone symbolise la confusion. La formation de l'Église catholique et, plus tard, l'apparition de plusieurs dizaines d'églises filles ont sans doute contribué au malaise spirituel des multiples dénominations dont les doctrines, les croyances et les pratiques s'opposaient et qui étaient censément chrétiennes. Cependant, pas une seule ne correspondait au modèle de christianisme conforme à celui que les premiers apôtres ainsi que l'Église de Dieu primitive avaient suivi à la mort de Jésus de Nazareth. Chacune d'elles avait conservé des dizaines d'idées et de pratiques païennes totalement étrangères à l'Église primitive. Satan a fait un travail colossal en créant un christianisme de contrefaçon. Bien que Hyslop resta protestant jusqu'à sa mort, il démontra en détail, appuyé par une abondante documentation, que l'Église catholique romaine est une continuation de l'ancien système religieux babylonien, un mystère dont les fêtes religieuses et la plupart des pratiques provenaient directement de la religion et du sacerdoce babylonien. Hyslop fait partiellement le lien avec les églises filles qui sont sorties de Rome, mais il est manifeste qu'il n'a pas compris tout ce qui était arrivé au christianisme moderne. Au début de son livre, Hyslop expose la thèse qu'il étaya à l'aide d'une riche documentation. Je cite. Il a toujours été reconnu que la papauté n'était qu'un paganisme baptisé. Mais Dieu nous révèle maintenant que ce paganisme baptisé par Rome est, dans ses éléments essentiels, celui qui florissait dans l'antique Babylone lorsque Jéhovah ouvrit devant Cyrus les doubles portes d'airain et brisa les barreaux de fer. Son jugement approche, cela est évident. Et à mesure qu'il approche, la providence divine, en accord avec la parole de Dieu, démontre clairement qu'en effet Rome est la Babylone de l'Apocalypse, que le caractère essentiel de son système, ses grands objets de culte, ses fêtes, sa doctrine, sa discipline, ses rites et ses cérémonies, sa prêtrise et ses ordres sont tous dérivés de l'antique Babylone, et qu'enfin, le pape lui-même est le descendant de Belshazzar. Dans la lutte qui a été soutenue contre les despotiques prétentions de Rome, on s'est trop souvent contenté de combattre et de repousser la présomption avec laquelle elle se vante d'être la mère et la maîtresse de toutes les églises. La seule église catholique hors de laquelle il n'y a point de salut. Si jamais on était excusable de la traiter ainsi, cette excuse n'existera plus. Si l'on peut justifier le principe que je viens d'établir, il faut lui arracher son nom d'église chrétienne, car si c'est une église du Christ, celle qui était assemblée cette nuit où le roi pontife de Babylone, au milieu de ses 1000 seigneurs, louait les dieux d'or, d'argent, de bois et de pierre, Daniel 5 au verset 4, alors l'Église de Rome a le droit de porter le nom de chrétienne. Dans le cas contraire, elle ne l'a pas. Quelques personnes penseront que ma thèse est bien audacieuse, mais ce livre a précisément pour but de la démontrer. Que le lecteur juge par lui-même si je ne m'apporte pas une évidence plus que suffisante pour justifier mon assertion. Les deux Babylones, pages 3 et 4. Hislop montre comment le confessionnal catholique fut emprunté au paganisme, ce qui conférait aux prêtres une plus grande autorité sur leurs paroissiens. Il explique que les fêtes païennes de Noël et des Pâques furent introduites dans le christianisme de nombreux siècles après que le Christ eut révélé toute la vérité à ses apôtres. Hislop écrit, je cite, « Les écrivains les plus instruits et les plus sincères de tous les partis reconnaissent que l'on ne peut pas déterminer le jour de naissance de notre Seigneur et que dans l'Église chrétienne, on n'entendit jamais parler d'une fête pareille avant le IIIe siècle et qu'elle ne fut observée que bien après, dans le IVe siècle. » Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps, avant le IVe siècle et bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même époque de l'année, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. Or, on peut présumer que pour se concilier aux païens et pour augmenter le nombre de ceux qui adhéraient de nom au christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine, qui se contenta de lui donner le nom du Christ. Cette tendance de la part des chrétiens à faire des concessions au paganisme, se développa dès le début. Ibid, pages 135 et 136. Hislop écrivit que cette tendance à faire des concessions au paganisme se développa dès le début. Cependant, Dieu avait dit à nos ancêtres, je cite, « N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. » On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Jérémie 10 au verset 2 à 4. Et pourtant de nos jours, les pratiquants s'obstinent à faire exactement cela. Ils ont l'audace de coller une étiquette chrétienne sur ce bagage de croyances et de pratiques païennes. Nous invitons ceux qui s'intéressent vraiment aux origines historiques des correspondances entre l'ancienne Babylone et le prétendu christianisme moderne à se référer au livre Les Deux Babylones, A Pagan and Christian Creeds, à The Golden Bough de Sir James Fraser et à de nombreux autres ouvrages d'histoire et de théologie. Si votre esprit est ouvert, il vous sera relativement facile de prouver que cette sorte de religiosité n'est en réalité que la continuation de la vieille religion babylonienne affublée d'une appellation chrétienne. Les protestants ont-ils quitté Babylone? Beaucoup de dirigeants et de théologiens conservateurs, protestants et orthodoxes accepteront volontiers que l'Église catholique est le prolongement de Babylone. Ils sont accoutumés au fait que la plupart des premiers dirigeants protestants identifiaient clairement Rome à Babylone et à la grande prostituée, décrite au chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Mais sur quoi les églises protestantes de notre époque s'appuient-elles réellement? Pourquoi leurs premiers dirigeants se révoltèrent-ils contre l'autorité de l'Église catholique de Rome? Dans quelle mesure sont-ils responsables de la division du christianisme actuel? Les réformateurs protestants sont-ils parvenus à atteindre leur but déclaré? Outre ces interrogations, la question réellement importante à se poser est de savoir si les réformateurs protestants et leurs successeurs sont retournés à la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Jude 3. Que penser de la célèbre déclaration du théologien protestant Chillingworth qui a dit, je cite, « La Bible, toute la Bible et rien d'autre que la Bible constitue la religion des protestants. » Schwarf Herzog, Encyclopedia of Religion's Knowledge, article Chillingworth, W. D'après ce qu'ils affirment, à savoir que les Écritures sont la règle inspirée par la foi et la pratique, Ibid, article Bible, les dirigeants protestants devraient s'engager à suivre la religion de Jésus-Christ et de ses apôtres. en la respectant dans son intégralité. De fait, les érudits reconnaissent que le premier fondateur du protestantisme fut Martin Luther. Cependant, Luther n'hésitait pas à rejeter l'autorité des Écritures lorsque cela l'arrangeait, personnellement, quoiqu'il déclara souvent le contraire. En rejetant la doctrine de la transsubstantiation, Luther fit valoir l'autorité absolue des Écritures en matière de foi et de pratique. Il déclara, je cite, « Car ce qui n'est pas supporté par l'autorité de la Bible ou par une révélation authentique ne demeure qu'une simple opinion, et rien n'oblige à y croire. » La transsubstantiation doit être considérée comme une invention humaine puisqu'elle n'est fondée ni sur les Écritures ni sur un raisonnement valable. Documents of the Christian Church, édition Bentenson, page 280. Si seulement Luther avait appliqué à la lettre ce genre de test à toute sa doctrine, le monde aujourd'hui serait un autre endroit. Car lorsqu'il fut critiqué sur le mot « sola », « seul », qu'il avait ajouté au passage de Romains 3 au verset 28, il répliqua avec hauteur, comme cité par l'historien Johannes Herzog. Si votre pape lui-même n'est pas d'accord au sujet du mot « sola », vous pouvez lui rétorquer qu'il figure là, selon la volonté du docteur Martin Luther. Manual of Universal Church History, page 199. Or, rien ne justifiait un tel changement non conforme aux Écritures. Lorsque ses convictions doctrinales, personnelles, étaient mises en cause, Martin Luther devenait un homme véritablement obstiné. Il est possible de juger tout homme ou tout mouvement au moyen de cette déclaration de Jésus. Je cite, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7, au verset 20. L'historien Henri Sévéder fit le récit des instructions que Martin Luther donna au prince germanique lorsque des milliers de paysans qu'il avait sincèrement suivis dans sa révolte contre Rome se révoltèrent contre ces princes arrogants. Je cite, « La rébellion n'est pas un crime méprisable, mais un grand incendie qui brûle et dévaste un pays. Par là, comprenons que le tumulte engendre des meurtres, du sang répandu, des veuves et des orphelins, et qu'il détruit tout, comme la plus grande des catastrophes. En conséquence, n'importe qui pourrait être amené à frapper, étrangler et poignarder secrètement ou en public, tout en se souvenant qu'il n'y a rien de plus venimeux, pernicieux et avilissant qu'une rébellion humaine. C'est la même chose lorsque quelqu'un doit abattre un chien enragé. Si vous ne le tuez pas, c'est lui qui vous tuera, et toute la contrée avec vous. » Je cite, « Laissez la force civile agir en toute légitimité, et frappez aussi longtemps qu'elle puisse encore bouger un muscle. Car vous avez un avantage, les paysans ont mauvaise conscience et ils ont acquis des biens illégitimes. À chaque fois qu'un paysan est tué, il perd son corps et son âme et va pour toujours au diable. L'autorité civile, cependant, a la conscience pure et des biens légitimes. Elle peut dire à Dieu en toute bonne foi. Vois, mon Dieu, tu m'as désigné comme prince ou seigneur. Je n'ai aucun doute à ce sujet et tu m'as confié une épée contre des scélérats. » Romains 13 au verset 4. En conséquence, je dois punir et frapper aussi longtemps que je peux bouger un muscle, à toi de juger et d'approuver. Ainsi, quelles sont merveilleuses les occasions qui permettent à un prince de gagner plus facilement le ciel en répandant le sang, alors que d'autres y parviennent avec des prières. A Short History of the Baptist, pages 173 et 174. On pourrait s'interroger. Si ces déclarations viennent d'un réformateur envoyé par Dieu, que vaut la véritable religion ? Ces paroles pouvaient-elles venir directement du Saint-Esprit divin? Était-ce le Christ ressuscité qui utilisait cet homme pour purifier son petit troupeau? Il est vrai que Luther et Calvin furent tous deux des hommes de religion motivés. L'esprit de Luther était sans cesse torturé par un sentiment de culpabilité, en mettant exagérément l'accent sur le salut par la foi seule. Luther essayait de concevoir un système comme un autre, où la loi et la justice de Dieu n'auraient plus leur place. Ces tourments spirituels et personnels n'auraient eu qu'un impact limité, en Allemagne ou de par le monde, si Luther n'avait pas éveillé les instincts politiques et financiers des princes germaniques. Il n'est pas erroné, je cite, de dire que les motifs qui ont poussé à la révolte luthérienne étaient pour une large part plutôt d'ordre profane que spirituel. Alfred Plumer, The Continental Reformation, page 9. Luther était têtu et obstiné. notamment lorsqu'il insistait sur la foi seule et sur le rejet d'un grand nombre de passages bibliques qui enseignent l'obéissance. La Bible enseigne que le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3 au verset 4. Il s'agit ici d'une référence aux 10 commandements, la loi spirituelle écrite du droit de Dieu. L'épître de Jacques explique que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Jacques 2 au verset 10 à 12. Quelle est la loi qui interdit l'adultère et le meurtre? Il est manifeste que l'apôtre Jacques se référait aux 10 commandements. Et il conclut en nous recommandant de parler et d'agir selon cette loi. C'est également ce que disait Jésus. En effet, lorsqu'un jeune homme vint lui demander de lui montrer le chemin de la vie éternelle, Jésus répondit, je cite, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Ensuite, il énuméra quelques-uns des 10 commandements. Matthieu 19 au verset 16 à 19. Ignorant totalement son contenu parallèle, en tout point, aux enseignements de Jésus-Christ, Luther déclara avec dédain que l'épître de Jacques comparée aux épîtres de saint Paul n'est qu'une épître de paille. Elle ne contient absolument rien qui rappelle la raison de l'évangile. Alzog, volume 3, page 208. Luther avait arbitrairement rejeté en bloc l'épître de Jacques parce qu'elle n'était pas conforme à ses propres doctrines. Au sujet du cinquième livre de la Bible, qu'il avait également rejeté, Luther déclara, je cite, « Nous n'avons rien à espérer, ni à voir, ni à écouter, venant de Moïse. Laissons Moïse aux Juifs, auprès desquels il a été envoyé comme un miroir de Saxe. Il n'a rien le concernant qui nous permette de faire la différence entre les païens et les chrétiens, et nous ne devons pas nous y référer. » Alzog, volume 3, page 207. Puisque Luther considérait que Moïse était lié à la loi divine que ce réformateur avait en horreur, il considérait qu'il ne fallait pas tenir compte des livres inspirés de Moïse. En revanche, comme son écrivain favori était l'apôtre Paul, il aurait été intéressant de connaître la réaction de Luther aux paroles inspirées de l'apôtre adressées à Timothée. Dès ton enfance, je cite, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. » 2 Timothée 3, versets 15 à 16. N'oubliez pas que, durant l'enfance de Timothée, les seules écritures rédigées étaient les livres de l'Ancien Testament. Luther aurait dû se souvenir de la description faite par l'apôtre Jean, des saints victorieux qui chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. Apocalypse 15, verset 3. À cela, à travers ses écrits, Luther répliqua promptement, je cite, je ne le livre d'Apocalypse, regarde ni comme apostolique ni comme prophétique. Jules Michelet, Mémoire de Luther, édition Mercure de France, 1990, page 226. Il ajouta ensuite, je cite, que chacun juge de ce livre d'après ses lumières et son sens particulier. En ce qui me concerne, il m'inspire de l'aversion, et c'est pour moi une raison suffisante pour le rejeter. Alzog, volume 3, page 208. Il s'est en effet avéré que Martin Luther rejeta intentionnellement l'autorité d'une certaine partie de la Bible, contre laquelle il éprouvait de l'aversion. Commencez-vous à comprendre pourquoi il y a tant de confusion religieuse à notre époque? Les protestants actuels ont hérité de Luther, considéré comme le plus important dirigeant protestant de la Réforme, d'un raisonnement obstiné et enclin à rejeter l'autorité indiscutable de la parole divine. Comme l'a écrit l'historien George P. Fisher au sujet de Luther, je cite, « Il ne s'inquiéta point de rechercher la permission explicite des Écritures pour conserver les rites et les traditions. Il lui suffisait qu'elles ne fussent pas interdites pour être opportunes et applicables. Sa répugnance à se défaire de l'essentiel du christianisme latin en matière de doctrine est également évidente. » History of Christian Doctrine, page 283. Luther lui-même écrivit, je cite, « Personne ne peut nier que nous maintenons, croyons, chantons et confessons tout ce qui est conforme à l'ancienne Église, et qu'en cela, nous n'inventons rien qui soit nouveau, et nous n'y ajoutons rien non plus. C'est pourquoi nous appartenons à l'ancienne Église et nous ne faisons qu'un avec elle. Thomas M. Lindsay, A History of the Reform, volume 1, page 468. De leurs propres aveux, les protestants prouvent qu'ils sont le prolongement de l'Église catholique, mais sous une forme différente et apurée. Luther confirma lui-même avec ardeur l'unicité fondamentale de son mouvement avec l'Église catholique. Pour Calvin, Fischer écrivit, je cite, « Il ne nie pas que les groupes chrétiens qui reconnaissent le pape sont des églises du Christ. Il se défend avec indignation d'avoir quitté l'Église. » History of the Christian Doctrine, page 304. Philippe Schaff releva la définition que fit Calvin de l'Église historique romaine. Je cite, « En ce qui concerne l'Église visible, nous pouvons même savoir ce qu'elle enseigne à partir de son titre de mère et comment ce titre qu'elle s'est attribué nous est utile pour la reconnaître. » History of the Christian Church, volume 8, page 450. L'insistance avec laquelle les dirigeants protestants affirment leur unité fondamentale avec l'Église catholique et leur identité par rapport à leur Église mère est fort intéressante. Dieu identifie l'Église catholique. Les premières traductions du Nouveau Testament par Martin Luther contiennent beaucoup d'illustrations représentant l'Église catholique de Rome, sous les traits de la prostituée de Babylone. En parlant de cette compréhension largement répandue, Roland Benton écrit, je cite, « La Babylone déchue est assurément Rome. Here I stand, page 258. D'innombrables livres, pamphlets et tracts protestants l'identifient pareillement aujourd'hui. Ils assimilent l'Église catholique à la grande prostituée d'Apocalypse 17. Mais il faut reconnaître que la plupart des écrivains protestants ont cessé de la désigner ainsi. Après la publication de ces bibles, pamphlets et tracts, ils réalisèrent qu'ils se trouvaient dans une situation embarrassante car ils se définissaient eux-mêmes. En effet, l'Église mère romaine corrompue a donné naissance à des filles prostituées. Il est possible de découvrir son identité au moyen des éléments clairs et logiques que la Bible nous donne et par voie de conséquence. Il faut admettre que les églises protestantes sont les filles prostituées d'une Rome apostate paganisée. Elles sont sorties d'elles en protestant. Néanmoins, comme nous l'avons vu, elles ont gardé la plupart de ses doctrines et de ses concepts païens. Elles continuent à suivre l'exemple de Rome en s'impliquant dans les politiques et les guerres de ce monde. En outre, nous avons déjà évoqué l'abondance des témoignages protestants qui avouent qu'elle est leur église mère. L'historien protestant Rufus Jones écrivit que Luther, je cite, « inaugura une église composée de ceux qui avaient la foi et la vision spirituelle, une église dotée de capacité et de force pour proclamer la parole de Dieu. » Mais en réalité, il entretint pleinement des vestiges importants d'anciennes croyances, une large assise de superstitions, de traditions, de magie et un lourd héritage venu de l'extérieur. « The Church's Debt to Heretics », page 228. En d'autres termes, les protestants gardèrent beaucoup de doctrines et de traditions païennes héritées de Rome. Nous avons vu qu'un grand nombre de ces traditions avaient un rapport avec les festivités païennes adoptées par les premiers catholiques sous un déguisement à consonance chrétienne. Nous n'avons pas le droit d'ignorer ces choses. Les églises protestantes sont clairement identifiées par le Dieu Tout-Puissant comme étant les filles prostituées de la Rome apostate. En parlant tout ce système babylonien, Dieu nous ordonne, je cite, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18 au verset 4. Qu'allons-nous faire? Obéir ou désobéir à notre maître? Que va-t-il se passer? Toutes ces informations n'ont pas pour unique objet d'étayer un argumentaire philosophique contre d'antiques pratiques païennes encore en vigueur de nos jours, bien qu'il soit important. Le fait d'aborder et de comprendre ce sujet a également pour but de fournir une aide aux chrétiens sincères et zélés s'ils décident de réagir, à se prémunir contre l'Holocauste à venir, décrit dans la Bible sous le nom de « Grande détresse ». L'écrivain Adrian Hilton nous montre ce qui est en préparation actuellement. Je cite, « Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce monde, et il fit de nombreux commentaires, traitant d'une entente impossible entre le monde et l'Église, jusqu'à son retour. Jusqu'à Constantin qui démarra un processus de syncrétisme, les chrétiens ne pouvaient pas comprendre la nature de la bête qui était en train de se mouvoir. Le sabbat juif du samedi fut remplacé par l'édite de Constantin interdisant de travailler durant le jour vénérable du soleil, dimanche, et la célébration de la Pâque fut déclarée illégale, sous peine de mort. Elle fut remplacée par les Pâques, qui étaient fêtées un dimanche et qui avaient été héritées du culte babylonien dédié à la déesse Ishtar. Le pseudo-christianisme romain incita beaucoup de croyants fidèles à s'enfuir dans les montagnes d'Europe et d'Asie mineure, afin d'échapper à la persécution et à la mort. De cette manière, ils purent continuer d'exister à l'abri des regards du monde, en tant que véritable église du Christ. Cependant, la majorité des chrétiens eut peur de l'autorité universelle de la nouvelle union. C'était un empire placé sous l'autorité d'un empereur conduisant une église sous un dieu. Beaucoup de croyants commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas mal compris le concept du royaume de Dieu. Celui-ci étant peut-être l'Église elle-même, ou même cet empire christianisé. Donc, l'union inévitable de l'Église et de l'État fut ratifiée, une union qui devait modeler l'Europe au cours des siècles à venir. Principality and Power of Europe, pages 23 et 24. Plus loin, Hilton poursuit, je cite, « Les dégâts occasionnés par la réussite de la réforme furent aussi décisifs que le processus de fédéralisme. Certains grands dirigeants chrétiens évangéliques ont même qualifié cette délocalisation momentanée de Dieu comme étant la plus importante tragédie jamais arrivée à l'Église. Ils ont déclaré que les protestants avaient détruit l'unité de la chrétienté. Ils omettent de mentionner de quelle sorte est la véritable nature du système religieux papal, la profonde obscurité spirituelle dans laquelle il maintient ses fidèles. Et son opposition diamétralement contraire au véritable christianisme biblique. Il semblerait que l'unité eût été plus importante à préserver que la vérité. Le concept de chrétienté, dont les pratiques sont pourtant antibibliques, semble plus important que les frontières nationales, établies entre principautés, sans considération des libertés garanties à l'intérieur de ses limites. » Je cite. Alors qu'il visitait l'Autriche en 1983, le pape critiqua ouvertement l'existence de frontières nationales et artificielles en Europe. Il ajouta, je cite, « Les Européens doivent vaincre les confrontations internationales menaçantes des États et des alliances et créer une nouvelle Europe unie de l'Atlantique à l'Oural. » Autre citation. En 1988, il poursuivit sur ce même thème lorsqu'il s'adressa au Parlement européen à Strasbourg, permettant du même coup de s'interroger sur la pertinence de l'intervention d'un dirigeant religieux au chapitre de l'unité politique. En 1991, le Sunday Telegraph résuma les plans du pape pour l'évangélisation de l'Europe en déclarant, je cite, « Il se prépare tout doucement à endosser le manteau qu'il croit solennellement être son droit divin. » Celui d'un nouveau Saint-Empereur romain qui régnerait de l'Oural à l'Atlantique. Pages 36 et 37. Babylone reprend vie. Comme l'a mentionné le Sunday Telegraph en Grande-Bretagne, le pape Jean-Paul II s'attendait à régner sur un nouveau Saint-Empire romain. Néanmoins, une question importante se pose. Sera-t-il réellement saint? Ne sera-t-il pas finalement la résurrection d'un ancien système babylonien, Église-État, condamné par Dieu? Dans une prophétie pour notre époque, le prophète Ésaïe fit mention d'une vierge, fille moderne de l'ancienne Babylone, qui profanerait son peuple. Ésaïe 47 au verset 1 à 9. Dieu qualifie cette Babylone moderne de souveraine des royaumes. Verset 5. Ensuite, il déclare, je cite, « Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance, et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve, et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. » Versets 7 à 9. Notez les déclarations identiques utilisées à l'encontre de la Babylone moderne qui combattra le Christ à son second avènement. Je cite « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Apocalypse 18 au verset 7 et 8. Ce système Église-État sera bientôt établi en Europe. Il finira par se tourner contre les Américains et les nations britanniques en déclenchant la grande détresse. Ce sera une résurgence de l'ancienne Babylone avec son clergé, son rituel païen, ses doctrines et sa totale indifférence pour les commandements divins. Ce sera une contrefaçon habile du véritable christianisme. Et pourtant, des millions de gens seront séduits. Pourquoi ? Parce que la vaste majorité de ceux qui prétendent être chrétiens n'étudient pas la Bible. Ils ne fouillent pas, ils n'essayent pas de prouver toutes choses comme Dieu leur donne. En conséquence, de nombreux chrétiens ainsi que leurs ministres seront finalement entraînés dans l'euphorie générale de ce puissant système babylonien. En effet, puisqu'il sera intégré au mouvement œcuménique, ce système semblera être celui qui convient. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je cite « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Matthieu 7 au verset 13 et 14. Ce même Jésus-Christ de la Bible a également donné cet avertissement. Je cite « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7 au verset 21 à 23. Les grands fastes, la pompe, les cérémonies et la puissance menaçante de ce système babylonien qui se profile à l'horizon seront très impressionnants. Seuls ceux qui accomplissent sincèrement la volonté de Dieu et qui observent ses commandements, tous les 10, entreront dans le royaume de Dieu à venir. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14 au verset 12. À la fin de sa parole inspirée, notre Créateur nous dit, je cite, « Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Apocalypse 22 au verset 14 et 15, version Osterwald, 1996. Les enchantements et l'idolâtrie religieuse du système babylonien séduiront des millions d'individus. La vaste majorité des gens accepteront ce système. Mais le passage cité précédemment met en garde quiconque aime et pratique le mensonge. Les enseignements de la Babylone moderne sont remplis de mensonges, d'interprétations erronées et de pratiques païennes. Selon la parole divine, ce système jouira néanmoins d'une vitalité et d'une puissance momentanée. Je cite, « Car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Apocalypse 18 au verset 23 et 24. Mais quelle sera la fin? Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipité avec violence, Babylone la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Verset 21. Vous devez agir. Dieu annonce. Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 2. Ensuite, Dieu dit, je cite, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Verset 4. Dans cette brochure, nous avons brièvement montré que toutes les religions du monde remontent à l'origine à Babylone. Les religions orientales et africaines sont basées sur beaucoup de faux concepts païens, similaires en ce qui concerne Dieu et le salut. Elles se sont développées à partir du culte original voué à Nimrod et à sa femme prostituée, Sémiramis. Le prétendu christianisme est en grande partie influencé et dévoyé par ces concepts païens. Où que vous viviez, qui que vous soyez, nous vous recommandons d'étudier sérieusement la Bible, la révélation inspirée que Dieu a mise à la disposition de l'humanité. Pour votre sauvegarde, ne vous contentez pas de lire simplement la Bible pour y ressentir des émotions ou pour renforcer vos a priori. Apprenez à étudier sérieusement la Bible pour voir ce qu'elle révèle clairement et de manière répétitive au sujet du Dieu créateur, de la vie éternelle et de la véritable voie qui y mène. Si vous êtes sincèrement intéressé et si vous désirez prouver ces choses, demandez-nous de vous envoyer gratuitement l'une de nos brochures essentielles intitulée « La restauration du christianisme apostolique ». En outre, si vous souhaitez prendre le temps d'étudier la Bible, inscrivez-vous à notre cours de Bible par correspondance. Votre inscription sera absolument gratuite, comme du reste toutes nos autres brochures et publications. Nous vous demandons seulement de réserver un peu de votre temps et de votre énergie mentale pour étudier diligemment et pour vérifier dans la Bible si ce que nous enseignons est exact, et de vous prouver à vous-même où la vérité est actuellement enseignée. Nous continuerons à expliquer les événements prophétiques qui ont un rapport à la résurgence actuelle de Babylone et à l'arrivée du royaume de Dieu. Ce message ne sera pas populaire. Nous serons harcelés, dénigrés et persécutés pour vous avoir présenté la pure vérité concernant ce qui va réellement arriver à l'échelle mondiale. Nous ne craignons pas de proclamer toute la vérité sur le véritable christianisme et sur l'apostasie dirigée contre lui par Satan le diable. En effet, le Dieu vivant n'apprécie ni les bonimenteurs, ni les lâches. Je cite, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 21, versets 7 et 8. Le christianisme contrefait de Satan doit être dénoncé, reconnu et rejeté. Puisse Dieu vous aider à réagir à ce message alors qu'il est encore temps. Puisse Dieu vous aider à prouver ce que la Bible dit réellement et à trouver, puis à accomplir le véritable but de notre vie. Fin.